Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Bonjour à tous, j'ai l'honneur et le très grand plaisir de recevoir Sorge Chalandon, journaliste et écrivain qu'on ne présente plus. Sorge Chalandon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de retour en Mayenne pour la sortie de votre 11e roman, L'Enragé. Dans ce livre, vous donnez voix à Jules Bonneau, un jeune homme qui a réussi, dans les années 1930, à s'évader d'un bagne pour mineurs, un bagne qui a réellement existé, situé à Belle-Île-en-Mer. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre ?
En fait, j'espère que ça sera la dernière revanche d'un enfant battu. Non pas Jules Bonneau, mais moi. Donc j'ai écrit trois romans, je pense, sur mon père et sur la folie de mon père, sur la violence de mon père, sur ce que cette violence peut faire à un enfant. Le détruire totalement. Et ces trois livres qui sont Profession du père, La légende de nos pères et Enfant de salaud, j'ai beaucoup parlé du père, mais j'ai assez peu parlé de l'enfant, en fait. Il y a que l'enfant, j'en parlais toujours un peu par les regards de la violence et pas le regard du père. Il y a une chose que j'ai oublié, en fait, d'écrire, c'est que la pire des menaces qui m'étaient faites au-delà des coups, c'était la maison de correction. Alors c'est bizarre parce que là je fais pas mal de rencontres, de festivals, etc. Et chaque fois que je dis le mot maison de correction, je vois plein de gens âgés dans la salle qui hochent la tête parce que apparemment à ce moment-là, on était tous plus ou moins menacés par les parents de maison de redressement ou de maison de correction. Et donc mon père, c'était sa menace systématique. Et non seulement ça, mais il m'avait parlé d'une maison de correction, sans me donner le nom de Belle-Île-en-Mer, mais d'une maison de correction où, me disait-il, on reverra plus ta gueule, parce que non seulement c'est une île, non seulement il y a l'océan, non seulement il y a les gardiens, il y a les murs, mais elle est extrêmement isolée, tu ne pourras jamais t'en échapper lorsqu'on t'y aura mis. Et c'est beaucoup plus tard, parce que là nous étions dans les années 62-63, et c'est beaucoup plus tard, en 1977, que j'ai fait le lien avec la fermeture de ce qu'on appelait à l'époque un centre d'éducation surveillée à Belle-Île. Et en fait, c'était le dernier bagne pour enfants qui venait de fermer ses portes en 1977. Alors évidemment, les conditions de vie n'étaient pas les mêmes que les enfants des années 30 dont je parle dans le livre, mais les murs étaient les mêmes, les cellules étaient les mêmes, les réfectoires étaient les mêmes, le mur d'enceinte était le même. Et donc, l'idée de ce livre, c'était... Non, je suis pas historien là pour le coup, je suis pas journaliste non plus pour le coup, mais je voulais ce que je pourrais dire si mon père était là, qui est mort maintenant. Si tu voulais me mettre là-bas, papa, eh ben je vais y aller, mais je vais trouver d'abord un moyen fictionnel d'y aller, un moyen de fiction romanesque, et je vais m'en sortir de ce lieu-là, et je vais m'évader, tu me retrouveras jamais de ta vie. Mais il a fallu que je cherche pendant plusieurs mois une histoire qui s'est passée réellement sur cette île, réellement dans ce camp, réellement dans ce bagne, pour que je devienne l'un de ces enfants et que je puisse m'en évader.
D'accord. Et justement, je me suis posé la question, parce que le livre a quand même un arrière-plan historique assez précis. Comment est-ce qu'on procède ? Est-ce qu'il y a le travail du journaliste revient un petit peu dans ce processus de création entre le roman et les documents historiques ?
Mais c'est-à-dire que moi, je peux pas... disons que le journaliste bride l'écrivain, ou en tout cas ne le laisse pas tranquille jamais. Le journaliste m'oblige à, avant même de commencer, de trouver, d'inventer un personnage de fiction, mon petit Jules, dans ce cas-là, il faut que tout le reste soit absolument exact, tout le reste soit absolument frappé par la vérité historique. Je ne peux pas inventer Laval, je ne peux pas inventer la Mayenne si je ne suis pas allé en Mayenne. J'entends plein de romanciers qui disent qu'ils ont tous les droits, qu'un romancier peut inventer une ville, un pays, un monde, etc. D'accord, s'ils veulent, mais moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin toujours de donner un cadre précis, réel, au moins un cadre historique, au moins un cadre comme un décor de théâtre. Et donc, ce qu'il m'a fallu, d'abord, j'ai eu une grosse déception, c'est parce que tous les documents sur le centre pénitentiaire de Belle-Île ont brûlé en 59, tout brûlé. Il y avait d'autres centres partout en France, dont un qui était à Maitrey, dans le centre de la France, où le poète et l'écrivain Jean Genet a été placé là-bas, il a été violé là-bas, ce qui a donné ce petit Jean Genet, qui est devenu le grand poète que l'on connaît et l'écrivain qu'on connaît, torturé, blessé, presque fou de douleur, sa vie entière. Tous ces lieux-là, en France, sont absolument documenté. On sait qui étaient les enfants, on sait pourquoi ils étaient là, quel âge ils avaient, ce qu'ils avaient fait. Belle-Île, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Donc il y a quelques historiens locaux qui ont fait des livres, donc je me suis plongé évidemment dans ces livres-là. Et surtout, ça c'est une véritable... c'est un trésor, il y a toute la presse locale. Donc il y avait l'Ouest républicain et plein d'autres journaux locaux que j'ai épluchés sur 10 ans. Et sur 10 ans, j'ai cherché une histoire dans laquelle mon petit Jules pourrait se glisser, dans laquelle je pourrais me glisser, puisque ce que je vais donner à Jules, c'est ma rage, ma colère, et c'est aussi ma force de m'en sortir, la force de m'en sortir, et donc trouver une histoire qui me permette d'entrer à la colonie et d'en ressortir. Et c'est là où je tombe sur une chose que je n'espérais même pas, tellement c'est immense. La nuit du 27 août 1934, je vois que 56 gamins ont tenté de s'échapper de la colonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont rendus maîtres des lieux, ça veut dire qu'ils ont passé le mur, et ça veut dire qu'ils se sont répandus après dans la lande, dans la nuit. C'était une sale nuit, comme Belle-Île a pu en connaître, c'est-à-dire qu'aucun marin ne prenait la mer. Et ces 56 enfants qui s'évadent ne me donnent pas encore la possibilité de faire un livre, parce que pour moi, le journaliste me dit que ce chiffre-là, il est sacré. Je ne peux pas inventer un 57e, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Je ne me donne pas ce droit-là, en tout cas. Je ne peux pas être l'un des 56 parce qu'ils ont existé, je n'ai pas le droit. Mais ce qui est formidable, et ça, c'est une chance inouïe, c'est que j'ai lu, donc j'ai suivi l'évasion par la presse locale. Et qu'est-ce que je lis, qui est un miracle absolu, c'est que 55 sont repris, et le 56e, il a disparu à tout jamais. Ce 56e, donc, il n'a pas de nom, il n'a pas de famille, il n'a pas de visage, on ne sait rien de lui. Là, le journaliste que je suis permet au romancier de devenir le 56e. Donc, celui qu'on n'a jamais retrouvé, je vais m'emparer de sa vie, je vais m'emparer de sa douleur, de sa colère, de sa rage, de son évasion, et je vais lui offrir en échange tout ce que j'ai de plus profond en moi, ce qui fait que ce livre-là, qui se passe en 34 à Belle-Île, est paradoxalement plus proche de moi que plein d'autres livres qui ont pu être écrits sur mon enfant, sur mon père, sur la trahison, sur plein d'autres choses qui me sont intimes. Mais celui-ci est pratiquement plus intime parce que j'ai pris plus de liberté à dire des choses que je n'aurais pas osé dire. Parce c'est-à-dire que c'est une chose toute bête. Jules va tuer. Jules tue. Je n'ai pas tué, moi. Mais je vais me permettre avec bonheur, dans ce livre, de tuer. D'accord. C'est étrange à écouter, c'est étrange à dire, c'est étrange à entendre. Mais là, il y a même, et ça m'a fait rire, des journalistes de journaux catholiques, quand je dis « mais enfin », parce que j'ai lu de très beaux articles sur ce livre-là. Et quand j'ai dit à des journalistes catholiques, presque pour les provoquer un peu, « oui, mais je le tue », et quand ils me disent « oui, mais on peut le comprendre », je dis « bon, ben, c'est gagné ». Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple qu'un lecteur prenne tout d'un coup fait et cause pour un enfant battu, un enfant humilié, qui n'a que les poings pour s'en sortir, et qui va aller jusqu'à commettre l'irréparable parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et en écrivant ce que j'ai écrit là, je savais qu'il n'y aurait pas d'autre choix. Et grâce à Jules, eh ben, j'ai commis à ce moment-là, moi aussi, l'irréparable, ce que je n'ai fait que dans un seul roman, sur le Liban, où Georges, qui est mon deuxième prénom, va tuer aussi. Oui, au fait, non, ça fait effectivement 2 fois que je tue, sous le nom de Georges et sous le nom de Jules. Donc ça m'évite de tuer sous le nom de Georges. Et c'est en ça que le roman est toujours intéressant.
Et en plus, ce personnage de Jules, bon, certes, il tue, mais vous lui donnez aussi une humanité, une profondeur qui nous aide bien sûr à comprendre son acte. Quelque part, il n'avait pas le choix.
Et voilà. Alors oui, parce que vous êtes dans un lieu où il n'y a pas de justice. Ces enfants-là, ils ont de 12 à 21 ans. Ils sont battus, ils sont violés, c'est un mélange de petits bagnards, de petits prisonniers, d'enfants qui travaillent de l'aube jusqu'au soir. La plupart ont fait quoi, en fait? Ce ne sont pas des repris de justice du tout, ce sont des petits orphelins, ce sont des petits vagabonds, il y a quelques voleurs de pommes, de pain, etc. Ce sont juste des enfants que la France n'a plus envie de voir sur les trottoirs, dans les rues. Ils n'ont plus envie de ça. Ils n'ont pas fait de choses suffisamment violentes ou lourdes pour être emprisonnés. Donc, eh ben, on les enferme dans des lieux jusqu'à leur majorité. Ils ne sont pas condamnés à 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont condamnés jusqu'à ce qu'ils aient 21 ans. Et là, quand ils ont 21 ans, physiquement, ils sortent de là, à la porte. Il y a les gendarmes. S'ils ont été sages, ils partent à l'armée tout de suite. S'ils n'ont pas été sages, ils partent au bagne, au vrai bagne, donc à Biribi, à Cayenne, etc. Et quand on est dans ce lieu-là, dépourvu de justice, dépourvu d'humanité, évidemment, où des braves gens, ce sont des braves gens, les gardiens, ce sont des héros de Verdun. C'est-à-dire qu'ils ont fait la Grande Guerre, ils étaient à Verdun, ils étaient au Chemin des Dames. La majorité sont blastés, c'est-à-dire qu'ils ont soit blessés, soit un bras en moins, une jambe en moins, ou blastés par un éclat, par un souffle d'obus. Ils sont irrécupérables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retourner dans la chose militaire. Alors, ce qu'on leur propose, c'est, après avoir chassé le Boche, comme on disait à l'époque, d'aider la France à redresser des enfants qui ne sont pas... qui ne sont pas des délinquants, mais qui pourraient un jour l'être. Et donc, ils redressent ces gamins de 12-13 ans avec autant de violence que les Allemands dans les tranchées. Et ça donne une petite humanité enfantine qui est broyée. Et le seul moyen qu'elle a pour s'en sortir, c'est la violence. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est-à-dire qu'ils vivent au pas, ils dorment au pas, ils marchent au pas. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils se sont rebellés cette nuit d'août-là parce que l'un des gamins n'a pas mangé sa soupe comme tous les autres, mais parce qu'il faut le faire dans l'ordre, la soupe, ensuite le plat principal, ensuite le fromage, ensuite le dessert quand il y en avait un. Et là, il y a un enfant qui a mangé son fromage d'abord. Faisant cela, il commet un acte d'insubordination qui fait qu'il va être battu sévèrement et qui fait que ça va déclencher l'émeute. C'est-à-dire que ce n'est pas une émeute qui couvait, c'était une violence qui était contenue depuis des années et brusquement qui explose. Ils ne pensent pas à s'évader. Ils savent très bien qu'ils ne pourront pas passer l'océan. Peut-être qu'ils passeront le mur. 56 vont effectivement passer le mur. Mais c'est tout. Ils savent que dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils vont être réduits, ils vont être frappés, etc. Mais c'est une sorte de fête barbare qui se met en place. Ils boivent le vin de messe, ils attaquent la chapelle, etc. Et moi, ce que je veux, c'est que mon petit Jules participe à tout ça, mais je veux qu'il s'en sorte. Et je veux qu'il s'en sorte comme moi, je m'en suis sorti en m'enfuyant de chez moi à 16 ans et demi. Et m'enfuir de chez moi à 16 ans et demi, j'offre ça à Jules. C'est le principe du mur que l'on passe. Mais qu'est-ce qu'on fait après le mur? Qu'est-ce qu'on fait après s'être enfui de chez soi? Qu'est-ce qu'on fait après le mur? Et c'est la suite du livre. Et puis après Jules, qu'est-ce que je vais en faire, moi, de Jules?
Oui, tout à fait. Et pour parler de la violence qui s'exerce à l'égard de ces enfants, et en fait, même quand ils arrivent à s'échapper, et donc, justement, vous avez évoqué dans le livre le poème de Jacques Prévert, Chasse à l'enfant, même les habitants de Lille exercent envers eux une violence qui est profondément injuste.
Alors, c'est pour chaque enfant retrouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gendarmes sur l'île, il n'y a pas assez de gardiens, donc ils font effectivement appel à la population. Appel à la population par les cloches des villages, par les tambours majors qui se ruent dans la forêt, dans la campagne, dans la brousse, un peu partout, par les phares des bateaux. Et il y a une chasse à l'enfant qui s'ouvre. Contre 20 francs. Alors, je les ai toujours avec moi, en fait. J'ai un petit... Chaque fois que j'écris un livre, j'ai un petit gris-gris. Et là, évidemment, c'est la pièce. C'est une pièce de 20 francs en argent. Un enfant rapporté à la colonie par la population. 20 francs, deux enfants, 40 francs. 20 francs dans le Morbihan, à l'époque, c'est 3 pains. C'est 4 pains de 3 kilos, ce qui est plutôt beaucoup. Donc il y a ceux qui vont se lancer dans la chasse à l'enfant parce qu'ils ont faim. Il y a les touristes qui vont se lancer dans la chasse à l'enfant parce que ça fait un petit jeu touristique. Il y a les chasseurs qui vont se lâcher dans la chasse à l'enfant. La chasse n'est pas encore ouverte, mais ils vont s'habiller en chasseurs. Et donc, il y a toute cette petite population qui se met en place. Il y a eu des justes, probablement. Maintenant, lorsqu'on parle avec des gens de l'île, ils ont tous un oncle, une tante qui a été juste à ce moment-là. Je demande à voir, mais en tout cas, c'est bien. On recrée une légende familiale. Un juste, c'est quelqu'un qui a donné une couverture à un gamin, qui lui a donné un morceau de pain, qui lui a donné un peu d'eau, qui lui a donné du thé chaud, du café chaud, une cigarette. Mais ce qui se met en place dans cette... Nous sommes en 34. Hitler est déjà au pouvoir. Bientôt, on sait ce qui va advenir de notre pays. Et ce qui se met en place, en fait, cette nuit-là, y a une collaboration, puis il y a des résistants. C'est-à-dire que déjà, dans ce petit microcosme d'île, il y a une France qui se met en place, il y a une sale France, puis il y a une belle France. Et le problème de ces enfants-là et de Jules, c'est de tomber sur la belle France et non pas sur la sale France. Et c'est pour ça que je vais offrir à Jules un moyen de tomber sur des gens bien. Parce que passer le mur ne suffit pas. Après, ce qu'il faut, c'est vivre dignement. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie après avoir passé le mur et après m'être enfui. Comme Jules, en fait.
Et du coup, le personnage de Ronan qui incarne cette main tendue à l'égard de Jules, est-ce qu'il vous a été inspiré par...
Alors évidemment, dans ce roman-là, je ne lui offre pas des intellos parisiens, je lui offre des pêcheurs, parce que nous sommes dans des années de pêche à la sardine, et je lui offre des gens bien, je lui offre plutôt des gens de gauche. Ronan, c'est un socialiste plutôt ouvert. Il y a un basque, parce que je l'ai rajouté après le basque, parce que je me suis dit, tiens, il manque une dimension. Il y avait Ronan qui était là, il y avait Alain, donc un vieux stale un peu obtus comme ça, mais tous de beaux hommes, vraiment de beaux hommes. Je lui ai offert Sophie, parce que je voulais qu'il y ait une femme, parce que c'est un lieu d'hommes, ces colonies pénitentiaires, mais il y avait une femme. Je me suis évidemment renseigné beaucoup dessus. Il y avait une ou deux infirmières, mais pas à demeure. Et donc, j'ai fait de Sophie l'une de ces infirmières. Et puis, il y avait la guerre d'Espagne. Et ça me touchait beaucoup d'imaginer ce basque-là, qui s'appelle Pancho. Et Pancho existe. C'est un bon copain qui était l'ancien responsable des prisonniers basques du Pays Basque Nord, comme on dit. Alain existe aussi, parce qu'il y a... Alain, qui est le seul Français qui a été condamné pour appartenance à l'armée républicaine irlandaise, c'est un ami. Ronan existe, puisque Ronan, c'est un directeur de librairie. C'est cette librairie qui m'a aidé. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est environner ce personnage-là de gens qui comptent pour moi et qui m'ont fait du bien. Et donc, même si, évidemment, ce Pancho-là n'est pas le même que dans le roman, juste mettre des prénoms de gens que j'aime et offrir ça à mon Jules, je sais qu'il est sous protection, en fait.
Effectivement, enfin, cette belle galerie de personnages qui tournent autour de Jules et qui lui permettent de s'en sortir, finalement, ils sont à la mesure, quelque part, de toute l'horreur qu'il a subie avant. Enfin, ça va lui permettre, effectivement, dans la deuxième partie du livre, une forme peut-être de reconstruction, en tout cas.
Alors, surtout, ce sont des adultes. Lui, les seuls adultes qu'il a connus sont des maltraitants, sont des gens qui frappent. Là, tout d'un coup, il a des gens qui lui tendent la main. C'est pas facile de prendre une main tendue. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai encore du mal, parce que lorsqu'on tend la main, lorsqu'on accepte une main tendue, la trahison est toujours possible ou envisageable. En tout cas, et Jules, je lui ai offert cette méfiance vis-à-vis des mains tendues. Sauf que j'ai fait de ces gens-là, de Pancho, d'Alain, de Ronan, de Sophie, j'ai fait de ces gens-là des gens qui, peu à peu, Jules va se rendre compte que ces mains tendues-là, elles valent le coup de les prendre. Et pour prendre la main, il faut desserrer les poings. C'est obligatoire. Donc il y a deux choses qu'il faut que Jules apprenne à faire, ce que j'ai appris à faire. Un, desserrer les poings, et ensuite tendre la main si possible et quoi qu'il en coûte. Parce que moi, j'ai tendu des mains, notamment en Irlande, et la main tendue, c'était un traître qui a fait beaucoup de mal, un traître qui a été exécuté ensuite par ses anciens compagnons de combat. Donc tendre la main, il y a toujours le risque de que cette main tendue soit une trahison, mais je pense qu'il faut prendre ce risque-là. Moi, je l'ai pris, je l'offre à Jules pour qu'il le prenne aussi.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de continuer Alors, vous avez choisi d'écouter L'Affiche rouge, oui. Le poème d'Aragon, chanté par Marc Augeret. Pourquoi ce choix ?
Ma fille s'appelle Mélinée, qui était la femme de Missak Manouchian. Missak Manouchian, c'est l'un des étrangers morts pour la France, dont on a oublié les noms, dans la très belle chanson et le poème d'Aragon, qui dit « Parce que à prononcer vos noms sont difficiles ». Et c'est vrai que la France victorieuse, après la guerre, était très heureuse de dire que le pays avait été libéré par des Dupont, des Durand. Et en fait, elle avait été aussi libérée par des républicains espagnols, par des juifs polonais, etc. Mais ça, c'était plus embêtant à accepter, à revendiquer, parce qu'à prononcer leurs noms sont difficiles. Et moi, ces gens-là, à tout jamais, je sais ce que je leur dois, et à tout jamais, chaque fois que je le peux, je leur rends hommage. Et donc l'affiche rouge parce que Manouchian et ses camarades, Missak Manouchian et ses camarades italiens, polonais, etc. ont été fusillés et la France dans son entier, dans son ensemble, a eu beaucoup de mal à reconnaître l'importance qu'ils avaient eue. Enfin, Missak et sa femme Mélinée rentrent au Panthéon l'année prochaine, mais nous serons en 2024. Ils ont été fusillés en 1944, voilà, c'est juste... Et je déteste le temps qu'on a mis pour accepter qu'enfin, ah mon Dieu, que Paris ait été libéré. D'abord, les premiers blindés qui rentrent à Paris sont des blindés républicains espagnols, et Lyon a été libéré par Villeurbanne a été libéré par des hommes dont un s'appelait Alter Moïse Goldman, qui était le père de Jean-Jacques, commando action des francs-tireurs immigrés. Et je pense que ce que chante son fils dans cette chanson-là, c'est la petite France qu'il aimait bien.
D'accord.
Voilà.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Elle est morte le matin, en était différent. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous ». Bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent.
23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Nous sommes toujours sur l'autre radio avec Sorge Chalandon pour parler de L'Enragé, son dernier roman. Alors je me demandais, que ce soit par la référence liminaire à Jules Vallès ou l'allusion aussi à Jean Valjean dans Les Misérables, vous vous inscrivez dans une tradition du roman engagé. Et je me posais la question, est-ce qu'au XXIe siècle, vous pensez que le roman est une forme efficace pour penser le monde, donc le monde d'hier et puis le monde d'aujourd'hui également ?
Ah ben, c'est assez compliqué. J'aime pas le mot de engagé. Pour moi, ceux qui s'engagent, ils prennent un fusil, ils vont se battre. Je trouve que lorsqu'on pérore assis dans un fauteuil en parlant d'un grand conflit, je trouve qu'on n'est pas engagé du tout. Quel est le risque d'écrire un roman ? Il n'y a aucun risque. Tu risques pas ta peau, tu risques pas ta vie, tu risques rien. Moi, je trouve que c'est la moindre des choses. Donc moi, je suis pas engagé. Chanteur engagé, ça me fait marrer. Ça veut dire quoi, chanteur engagé ? Alors oui, chanteur anti-nazi qui risque la tôle, chanteur en Irak ou en Iran qui risque la pendaison, d'accord. Mais en France, un chanteur engagé, c'est quoi ? C'est ouais, je veux pas qu'il y ait de monde, de faim dans le monde, d'accord. Ok, si c'est ça, engagé, nous le sommes tous. Mais en revanche, moi, ce qui me touche plus, c'est que moi, dès Jules Vallès, dès que on m'a prêté ce livre lorsque j'étais enfant, j'ai cherché une communauté de douleur dans tous les enfants qui étaient dans la littérature. Donc ça a commencé tout de suite après l'enfant qui m'a bouleversé. Ben, je suis tombé sur Poil de carotte qui m'a bouleversé. Et d'autres romans comme ça qui m'ont bouleversé avec des papas méchants, avec des Thénardiens un peu partout. Thénardier ici, Folcoche là, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était brusquement de me rendre compte que j'étais pas tout seul. Qu'il y avait un petit Jules Vallès, je ne sais pas qui est ce Jules Vallès, je suis enfant, je ne sais pas qui c'est, mais il y a un petit Jules qui dit à un petit sort, je n'étais pas tout seul, gamin. Moi aussi, j'en ai souffert, puis on va s'en tirer ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché étant enfant, c'est cette impression de faire cortège avec d'autres de douleur, d'autres compagnons de douleur, ou compagnes de douleur, et qu'on ne soit plus seul face aux adultes. Donc pour moi, ce n'est pas un engagement, c'est une protection, c'est une armée de survie. Moi, je suis un chien des rues, en fait. Je suis un animal. J'ai un instinct animal, comme ça, qui me... j'ai appris, peut-être les 22 ans de correspondant de guerre aussi que j'ai fait, j'ai appris à reconnaître le danger, toutes ces choses-là. Je suis le contraire d'un intello, je suis pas en train de pérorer, je suis pas informé, moi, en fait, voilà. Je trouve ça formidable, les informés sur France Info, t'entends, ils savent tout sur tout, tout le temps. Il n'y en a pas un seul qui doute. Moi, je doute. Je passe mon temps à douter. Alors, je ne dis pas que douter, c'est une richesse, mais en tout cas, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je doute, mais quand je veux quelque chose, là, je suis prêt à me battre si cette chose est juste. Mais donc, non, moi, je suis pas... J'ai été engagé quand je me suis battu, physiquement, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune. Là, c'est un peu plus compliqué, je cours moins vite. Mais contre l'extrême droite, contre les racistes, on va pas continuer à expliquer que c'est mal, que l'antisémitisme, c'est pas bien. Je veux dire, à un moment donné, moi, c'est un truc qui à chaque fois qu'il me fait la même chose, je me bats toujours pour que la peur, elle change de camp. J'ai envie de voir la peur dans le regard de ces gens-là. Et malheureusement, il n'y a pas mille façons qu'ils aient la peur dans le regard. Les mots ne suffisent pas. À un moment donné, t'es au bout des mots. Alors, je sais que ça ne se fait pas, je sais que ça ne se dit pas. Ce n'est pas évidemment un appel à quoi que ce soit, parce que je ne suis pas engagé. Mais en tout cas, ceux qui veulent faire du mal à d'autres à raison de leur couleur de peau, de leur religion, de toutes ces choses-là, j'ai envie que ces gens-là dégagent de mon espace vital le plus vite possible et quel que soit le prix.
Et justement, peut-être que ce titre, L'Enragé, reflète la force de ce que vous ressentez.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que moi, c'est simple, il y a à un moment donné, moi j'étais un petit bègue, donc je bégaye encore, voilà, surtout lorsque j'en parle. Mais malheureusement, je n'avais pas les mots pour contrer le bégaiement, pour contrer les gens qui se moquaient du bégaiement. C'est le seul handicap qui fait rire. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Tu ne ris pas de quelqu'un qui boite, tu ris pas mais tu peux rire d'un bègue. Parce que bonjour, bebe. Et donc, moi, j'ai passé mon temps dans les cours de récréation à taper. Je ne tapais pas parce que j'étais un méchant, parce que j'étais un dur. Je tapais parce qu'il fallait que absolument que je lave la violence qui m'était faite. Et je n'avais pas d'autres moyens. Et donc, et ça, c'est animal. Ce n'est pas doué de raison. J'aurais pu partir, j'aurais pu faire le gros dos, j'aurais pu pleurer dans mon coin. Non, je voulais une fois encore que la violence change de camp et que la peur change de camp aussi. Et pour moi, c'est ce rire de l'enfant bègue qui m'a heurté, qui m'a blessé, qui me blesse encore, c'est ce que j'explique à mes filles. Par exemple, ne laissez jamais un enfant plus faible que vous se faire ennuyer, taper, maltraiter, insulter par les plus grands. Toujours, tant que vous pouvez, évidemment. C'est pas... Mais essayez de prendre le parti du plus faible. Toujours. Et si vous le faites, moi, je serais fier de vous. Et puis, ça voudrait dire qu'on pourrait être dans un monde un peu mieux. Mais si vous prenez... C'est exactement le principe ce harcèlement qui est épouvantable en ce moment, démultiplié par les réseaux, etc. C'est-à-dire que moi, je serais... Une des choses qui me rendrait les plus tristes au monde, c'est d'apprendre que l'une de mes filles a harcelé. Ça voudrait dire que toute mon éducation est passée, n'a pas été comprise, n'a pas été entendue, n'a pas été prise en compte. Heureusement, c'est l'inverse. Elles ne sont pas harcelées, mais elles se lèvent contre le harcèlement. Il n'y a pas besoin de ministre pour leur en parler. Il n'y a même pas besoin de prof pour leur en parler. Elles savent que c'est un problème de survie parce que son père a vécu ça.
Et finalement, ce que vous dites là, ça me fait penser à la relation entre Jules et Camille dans le livre, justement.
Alors voilà, c'est-à-dire que je le dis pas parce que c'est un peu compliqué, mais là je peux le dire ici. Camille, c'est mon petit frère. On n'a pas tellement de différence. Il a 19 mois de moins que moi, mais mon petit frère, je l'ai protégé tout le temps. Je l'ai protégé de mon père, qui l'appelait Mademoiselle, comme dans le livre. Mmh. Et je l'ai protégé... Je l'ai protégé jusqu'à ce que je m'en aille, et ça, c'est quelque chose qui me hantera ma vie entière, je crois. Donc, à 16 ans et demi, je quitte le domicile, et mon frère me dit « Si tu pars, je ne sais pas ce qui va m'arriver. » Je suis parti quand même. Je l'ai abandonné, en fait. Je l'ai abandonné au Minotaure, et ça, c'est quelque chose qui me... Mais je pense que j'ai bien fait, parce que j'étais devenu un peu fort, un peu grand. Je suis pas très grand, mais un peu grand. Disons que j'étais plus l'enfant qui se protégeait avec les bras. Je pense que l'un ou l'autre, mon père ou moi, je pense qu'on aurait pu finir mal, très très mal. Et donc je me suis désengagé pour éviter qu'il y ait drame. Et me désengageant, j'ai abandonné mon frère et je l'ai laissé entre ses griffes. Et ça, pour moi, ça sera à vie. Et c'est peut-être aussi dans ce livre-là, une façon de dire à mon frère que je l'aime et que je l'ai protégé tant que j'ai pu.
Effectivement, tout ce que vous dites est clair, la lecture de livre, voilà, d'une dimension.
Le problème, c'est que je ne peux pas être derrière chaque lecteur pour lui expliquer.
Bien sûr.
Mais tant pis, c'est-à-dire que, oui, c'est pour ça que quand on me dit, mais c'est pas vous, ça se passe en 34, je dis, ouais, bah, écoute, relis et puis essayez de penser différemment. Une part autobiographique dans un roman, elle peut se passer sous version historique aussi, c'est pas le problème. Mais je crois que c'est mon livre le plus proche, en fait, le plus intime. En fait, ce que m'a dit ma famille, c'est que pendant toute l'écriture du livre, plus encore que le livre sur la trahison, le livre sur le cancer, le livre sur l'Irlande, le livre sur mon père, plus encore j'étais abîmé pendant toute l'écriture. C'est-à-dire, je prenais mes repas seul, j'étais une sorte de fauve dans ma tanière et on pouvait venir me parler, etc. Parce que j'étais en 34 et il fallait que je passe ce mur. Et ça, c'est ça, en fait, ça a été très dur ce livre à écrire, je pense, parce que je le vivais, j'étais devenu le petit Jules, j'étais devenu Jules. Et il m'est arrivé dans le métro, tu sais, tu prends le métro à Paris, puis tu as un type qui rentre et qui dit « Ah, alors, qu'est-ce que c'est que tous ces Chinois qu'il y a dans le métro et tout ?» Et là, il fallait que je me retienne bien à la barre, parce que là, j'étais Jules. Et les Chinois, ils auraient vu ce que... Mais bon, En même temps, je peux pas vivre dans la fiction sans cesse. Mais j'avais la colère de Jules. C'est-à-dire que moi, je voulais donner ma rage à Jules. Et en fait, c'est Jules qui me l'a donné la sienne.
Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait du livre ?
Ouais. Alors là, Jules... Jules va commettre, en fait, l'irréparable, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va... Il va brûler un commerce, le commerce d'un petit patron, parce que ce petit patron a fait emprisonner son père et sa mère de façon extrêmement injuste et dégueulasse. Et donc Jules va suivre les fils de ces deux victimes pour brûler ce commerce, mais Jules pourrait ne pas y aller, mais Jules y va. Donc il va suivre ces deux gamins à vélo, ça se passe à Laval, puisque... Jules est de Laval, et ça se passe à Laval. Et voilà, donc, lorsque j'ai suivi les frères à vélo, je n'étais qu'un cancre des cols buissonnières, mais leur colère allait faire de moi un criminel. Et vous savez quoi ? Ça m'allait bien. Mon père buvait, ma mère s'était enfuie pour mieux que nous. Je vivais chez des vieux dans une ferme au milieu des champs. À l'école, j'apprenais des chiffres qui ne me servaient à rien, le nom de pays où je n'irais jamais. L'instituteur nous parlait de morale, mais c'était quoi la morale ? Laisser le bouillon à son fils et garder la viande pour soi ? Que faisait-elle pour moi la morale et l'instruction civique ? Et le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » psalmodié par notre curé Jean faisait quoi ? Il me déteste, mon prochain. Il m'avait tiré les oreilles quand je pêchais le gardon dans un lac de Mayenne. Il avait traité ma mère de femme légère lorsqu'elle était partie. Il avait laissé mon père, ce héros de guerre, s'épuiser à ramasser des pommes de terre de salopards qui s'étaient cachés à l'arrière du front. Voilà, ça c'est ça, mon prochain. Vous comprenez ça, vous ? Savez-vous ce que c'est que d'avoir été abandonné pour un accordéoniste, de ne garder de sa mère qu'un ruban de soie ridée ? Savez-vous ce que c'est de voler 3 heures en espérant les gober dans un buisson ? Que savez-vous de la faim, messieurs de la justice ? Et du froid ? Avez-vous eu déjà des semelles en carton pour masquer le trou de vos chaussures ? Savez-vous la honte d'un pantalon troué ? Savez-vous la douleur des nuits sans parents ? Personne n'en sait rien, personne, jamais, ne parlera de cette solitude, de cette misère, de l'immensité d'une nuit sans toi lorsqu'on dort sous le ciel. De la rosée du matin qui perle sur la veste d'un pauvre. Voilà, ça c'est Jules, et ça c'est moi. Et c'est vrai que personne, moi j'ai vécu 1 an et demi dans la rue, et personne qui ne l'a vécu ne sait ce que c'est que le rosée le matin sur ta veste quand tu as dormi dans les buissons. Et ça pour moi, ça c'est quelque chose à vie, toujours. Toujours, c'est quelque chose qui me gardera, qui me hantera et qui me fera détester ceux qui nous y conduisent, dans ces buissons, la nuit. Voilà.
Donc l'enragé, c'est aussi bien Jules Bonneau que Sorge Chalandon.
Oui, mais je suis Jules Chalandon, en fait. Ou Sorge Bonneau, vous pouvez, comme vous voulez. Mmh. Et Bonneau, j'ai pris, parce qu'évidemment, c'était juste après la bande à Bonneau. Donc ce petit Jules, ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit E-A-U. Mais je voulais en plus qu'il ait un nom de famille, qui le marque à tout jamais, c'est-à-dire que s'appeler Jules Bonneau exactement comme le chef de la bande à Bonneau, pauvre gamin, il n'avait aucune chance de s'en tirer, donc je voulais ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il pêche donc dans un étang de Mayenne, et puis il y a un garde-champêtre qui le voit, qui dit « Tu t'appelles comment, toi ?» Il dit « Jules Bonneau, monsieur ». Évidemment, ça paraît totalement fou. Et le garde-champêtre lui dit « Si tu continues, Jules Bonneau, tu inscriras ton nom dans le livre du crime. » Et voilà, je voulais en faire un enfant qui, quoi qu'il fasse, serait amené un jour à être un criminel, alors qu'il ne l'est pas, et alors qu'il ne veut pas l'être, évidemment.
Et puis un enfant qui a quand même, malgré tout, une trajectoire, une trajectoire de vie, parce que vous restez beaucoup sur l'idée qu'il tue, mais si on regarde quand même l'ensemble de son parcours, il apprend aussi beaucoup et il change et de manière vraiment positive.
Oui, mais c'est le fait qu'il tue, c'est juste pour protéger des gens, c'est pour protéger des vies. D'abord, il tue un chef des Croix de Feu, l'extrême droite française. Bon, allez, on nous sommes en 34, ils vont faire pire après, ils vont se venger très cruellement.
Oui, c'est ça, puis à chaque fois qu'il commet, alors pas forcément un crime, mais en tout cas qu'il fait quelque chose de mal, il y a toujours un arrière-plan qui justifie, enfin, oui. On le comprend, on s'identifie facilement.
Mais, quand j'écris un roman, je fais exprès que vous puissiez comprendre, identifier. C'est comme quand je fais un roman sur la trahison, Et quand je parle de mon traître et quand je crée mon traître qui a vraiment existé, je lui offre des possibilités, des portes de sortie aussi. Pour que, je dis, il ne faut pas que vous aimiez le traître. Mais il faut pas le comprendre non plus, mais il faut l'écouter. Moi, je n'aime pas quand tout est simple, quand tout est blanc, quand tout est noir. Moi, ce qui m'intéresse chez nous tous, hein, c'est nos parts d'ombre. Et moi, j'ai un traître en moi. Le problème, c'est qu'il faut que je lutte contre. J'ai un barbare en moi, il faut que je lutte contre. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui est en nous. Dire, ouais, je n'aime pas les gens qui font ça, mais commence par toi, quoi. Et donc, moi, Jules, ce qui m'intéresse, c'est que Jules va être obligé de se pencher sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il pourrait devenir. Ce n'est pas un livre de morale du tout. Non, c'est un livre de combat, je trouve. Tu sais, c'est ça. Ce n'est pas un livre engagé, c'est un livre de combat.
Alors, quand je disais engagé, c'était plus dans l'idée, la vision du monde que vous défendez. Enfin,
oui, mais ça... Voilà. Mais non, je trouve que dès que des gens ont dit qu'ils étaient un chanteur engagé, ils m'ont plus envie de donner jamais d'employer ce mot-là. C'est comme quand j'entends un patron d'usine dire bah voilà, nous sommes en pleine résilience, nous venons de licencier 640 ouvriers et on repart. Toi, si c'est ça la résilience, ça me va pas du tout. Moi, je préfère que l'on en reste à Cyrulnik. Et est-ce que ça veut dire vraiment? Mais quand des mots comme ça sont employés à tort et à travers, donc je suis désengagé par rapport aux chanteurs engagés qui chantent contre la faim dans le monde. Je trouve ça formidable, mais ça m'intéresse pas.
Oui, je comprends, c'est l'emploi excessif de ce mot qui le rend.
Absolument, oui, oui. C'est l'usure du mot, en fait.
Exactement.
Oui.
Eh bien, merci, Serge Chalandon. Je propose qu'on écoute le second morceau que vous aviez souhaité écouter, c'est « Il y a » de Jean-Jacques Goldman. Est-ce que vous pouvez nous dire
bah oui,
pourquoi
c'est-à-dire
vous avez envie d'écouter
ça ? On a commencé un peu... comme ça, après le père qui a libéré Villeurbanne, avec l'affiche rouge, avec Manouchian, ses copains, enfin reconnu par la France, ben, il y a un fils maintenant, fils qui est chanteur, son père voulait absolument pas qu'il soit chanteur, parce qu'il disait, et ça c'était un moment qui était assez bouleversant, à table, le samedi, qui dit, mais tu te rends compte, Jean-Jacques, si tu te mets à chanter comme ça, on va se souvenir que l'on est juif et on aura des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est bouleversant, parce que tu es dans les années 90, on va se souvenir que l'on est juif et on aura des problèmes. Puis tu verras qu'un jour, Goldman, l'homme d'or, tu verras, tu auras des problèmes aussi. C'est-à-dire que cette peur et cette colère-là a existé jusqu'au bout. Et cette chanson-là, il y a... C'est une chanson qu'on n'entend pas vraiment à la radio, parce que ce qu'on entend, c'est les tubes, etc. Mais là, je pense que c'est en fait, c'est la petite France pour laquelle son père s'est battu. Son père n'a pas fui l'antisémitisme. Il y a plein de gens qui ont fui la Pologne. Non, son père est venu en France. Et c'est une histoire qui est tellement formidable. Il est venu en France parce que Sacco et Vanzetti, anarchistes américains, allaient être tués parce qu'ils avaient été accusés d'un crime qu'ils n'avaient manifestement pas commis. Ils allaient être tués et donc... partout dans le monde, des gens se battaient pour la libération de Sacco et Vanzetti. Et son père était en Pologne, et le Parti communiste polonais appelle à une manifestation, et puis elle est interdite, et donc le Parti communiste polonais dit « on ne le fait pas ». Et le père qui dit « on s'est retrouvés sur la place là-bas, on était 10 ou 15, que des jeunes juifs comme ça, puis on était 15, et on s'est dit « c'est incroyable, que lorsqu'ils interdisent, on n'y va pas ». Et j'ai entendu, dit-il, à Paris, on s'était battu sur les boulevards. Ça, c'est ma ville. Et donc, il n'est pas parti parce qu'il avait peur du nazisme, parce que c'était pas encore le nazisme. Il est parti pour se battre pour la justice. C'est pour ça qu'il est venu en France. Chapeau.
Il y a du thym de la Bruyère et des bois de pin. Rien de bien malin, il y a des ruisseaux, des clairières, pas de quoi en faire un plat de ce coin. Il y a des odeurs de menthe et des cheminées et des feux dedans. Il y a des jours et des nuits lentes et l'histoire absente, banalement. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Il y a des enfants, des grands-mères, une petite église et un grand café. Il y a au fond du cimetière des joies, des misères et du temps passé. Il y a une petite école et des bancs de bois, tout comme autrefois. Il y a des images qui corrent au bout de tes doigts et ton cœur qui bat. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Et plus la terre est aride, et plus cet amour est grand, comme un mineur à sa mine, un marin à son océan. Plus la nature est ingrate, avide de sueur et de boue, parce que l'on a tant besoin que l'on ait besoin de nous. Elle porte les stigmates de leur peine et de leur sang. Comme une mère préfère un peu son plus fragile enfant. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois.
Merci beaucoup, Sœur Chalandon, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, j'espère à bientôt, à nouveau à ce micro.
On verra. Mais en tout cas, c'était bien d'être là, aujourd'hui, avec vous.
Merci. C'est la fin de ce 20e numéro de Lecture en tête à tête. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.